Le warm-up avec Robin sur Voltage. Dance Music.
Mais quel plaisir de le recevoir ici dans le warm-up Voltage. Depuis le temps qu'on voulait t'inviter, franchement c'est un pur kiff. Bien évidemment, il est venu avec ses lunettes blanches. Epsilon est mon invité sur Voltage. Comment ça va Epsilon?
Yo, bah ça va super et toi?
Bah très bien, moi ça nous fait extrêmement plaisir de terminer la semaine tranquillement avec toi et en musique. Tu prendras les platines tout à l'heure.
Ouais.
Petite piqûre de rappel, cours de rattrapage, Epsilon c'est ça.
What do you mean about
Epsilon?
Ça en fait des tubes déjà.
Waouh, mais c'est un magnifique mashup que
vous
avez
fait là.
Mais
à chaque fois, tout le monde nous dit ça. C'est Bess, notre producteur, qui s'occupe de ça. On lui a dit, Bess, on reçoit Epsilon. Fais-toi plaisir. Bah voilà, je crois que.
Bravo Bess. C'était super.
Bon, comment ça va Epsilon? Est-ce que tu te sens bien? Est-ce que t'es heureux?
Bah, je suis très heureux. Merci de me recevoir. C'est adorable.
Les beaux jours reviennent. On va te voir aussi sur scène. On va en reparler tout à l'heure. Et puis que serait Epsilon sans ses lunettes blanches et ce look bien propre à toi? D'ailleurs, pourquoi ce look?
Les lunettes blanches ou le look pur beau gosse?
Alors le pur beau gosse, on peut en parler aussi, les lunettes blanches de base, parce que c'est vrai que c'est ta marque de fabrique, on peut dire.
Oui, les lunettes blanches, de base c'était pas du tout calculé. Je cherchais un peu des lunettes un peu what the fuck, mais stylées quand même, et surtout que personne n'avait. Et du coup c'était les lunettes blanches que j'ai, et maintenant c'est ma collab qui va être mise en vente bientôt avec Amaury. Qui est un lunetier super talentueux. Et donc du coup celle que tu vois là.
Donc c'est à dire que très bientôt tout le monde pourra avoir les lunettes blanches d'Epsilon.
Oui, même toi tu pourras les avoir si
avec plaisir. Alors là ça sera un plaisir. c'est toi, je sais que t'aimes bien jouer un petit peu un personnage un peu rigolo et tout. Je me demandais si c'était un personnage que tu jouais ou alors si c'est vraiment toi, si dans la vraie vie t'es comme ça aussi.
Non, je suis un peu rigolo, j'aime bien faire de l'humour.
Et puis un pur beau gosse aussi.
Oui, c'est gentil, merci.
Epsilon, c'est fou quand même parce que tes musiques elles ont quand même j'ai l'impression qu'il y a plein de styles différents. Un coup c'est électro, un petit peu funk, un petit peu disco. Comment toi tu décris ton style musical?
Je pense que c'est French Touch. Un peu nouvelle French Touch je dirais.
2.0.
Ouais un peu.
C'est exactement ce que je voulais te demander. Ouais. Est-ce que tu te qualifierais justement de. Tu fais partie de la French Touch 2.0?
Bah après je vais pas non plus m'auto-qualifier.
On est entre nous, dis ce que tu penses, t'inquiète.
Non mais je trouve que ça qualifie bien. Après je laisse les journalistes et les intervieweurs comme toi me le dire.
Je ne suis qu'une simple personne.
Non, je ne suis pas un intervieweur. Non.
Ça fait penser un petit peu au début de Martin Solveig. Tu sais, on parlait de ton look tout à l'heure, à l'époque de Jalousie ou de
Tu vois.
Sais ce côté un peu décalé dans les clips sur scène avec un look, ça fait partie de tes inspires?
Ouais carrément, j'ai grandi avec lui hein, clairement. Le côté un peu décalé mais en même temps très bon DJ, bon producteur, ça fait partie de mes inspires avec Bob Sinclair, Daft Punk, Justice, Headbanger, tout ça.
Epsilon, je l'ai mis tout à l'heure mais pour le plaisir on le remet.
Ouais, l'histoire est folle de cette track.
Un remix qui a cartonné, c'est celui de Mylène Farmer. Les auditeurs de Voltage kiffent ce morceau, je te le dis.
C'est vrai?
Moi aussi je le kiffe.
Cool.
Et on a Karine qui est une auditrice de Voltage qui nous écrit à chaque fois qu'elle entend ce morceau. Elle nous écrit sur WhatsApp.
C'est fou.
Et quand je lui ai dit qu'on allait te recevoir, elle a voulu absolument te laisser un message.
Écoute. Oh wow.
Coucou Epsilon, c'est Karine, une grande fervente de ta musique et de la radio Voltage. J'aimerais savoir le déclencheur qui a fait que tu te rapproches de Mylène Farmer. Parce que je trouve que c'est magnifique ce que tu as fait. Et ça m'intrigue. À bientôt, bonne continuation, gros bisous.
Elle t'aime beaucoup Karine.
C'est adorable Karine, gros bisous Karine.
Alors explique-nous l'histoire de ce morceau avec Mylène Farmer.
Le remix je l'ai fait pendant le confinement, dis-toi, donc ça fait bien 4-5 ans.
Ouais.
Et en fait je voulais faire des remixes de sons que j'aimais bien en français et le désenchanter, genre je kiffais en fait le son de base, il est quand même mythique. Et en fait je me dis mais attends mais c'est fou, y a aucun remix de ce son. Et je pense que les jeunes ils pourraient grave kiffer. Et du coup j'ai fait le remix de Mylène. Et sur Insta mon réel que j'ai fait avec Mylène où j'ai fait un tuto sur ce morceau là et il a grave marché aussi. En fait les gens ils l'ont découvert via Insta, via les réseaux sociaux, via du coup Voltage, via les
et
gens
après
qui ont passé.
Ça a cartonné, maintenant ça fait partie des des classiques d'Epsilon. Mylène Farmer, Désenchantée, on ne s'en lasse pas, je te le dis.
Non mais c'est fou, parce que avec cette track, ça m'arrive très souvent. Je vais dans un taxi ou dans un Uber et j'entends Désenchantée, mon remix. Et je me dis, mais c'est fou, c'est incroyable.
Et c'est Voltage que
c'est Voltage.
Le taxi ou le Uber.
À chaque fois, c'est Voltage.
Ah, bah, ça fait... bah, c'est normal, Epsilon. C'est pour ça que ça fait vraiment plaisir de te recevoir ici. Epsilon, tu fais partie du Club Azur avec Kungs. D'ailleurs, mais justement, je suis sûr que parmi les auditeurs de Voltage, il y a des gens qui nous écoutent là, peut-être dans leur voiture, ils ne savent pas ce que c'est le Club Azur. Est-ce que tu peux nous expliquer ce que c'est?
Alors de base, c'est un live créé par Kungs et son meilleur pote Victor pendant le confinement, où ils faisaient des DJ sets en direct sur Insta. Ouais. Ensuite, c'est devenu des vraies soirées. Donc moi, je suis arrivé un peu après. Et après, donc là, c'est en train de devenir, enfin, c'est déjà en train de devenir un label.
Et donc tu
là,
fais
je t'ai résumé en peu de temps, mais ça, c'est sur 5 ans quasiment.
C'est vrai, c'est sur 5 ans, mais au moins c'est clair parce que tout le monde ne s'y connaît pas forcément en musique et c'est bien de savoir ce qu'est. Donc c'est un collectif qui a été créé pendant le confinement et qui maintenant devient un label.
Oui.
Un label, rapidement, qu'est-ce que c'est pour les gens?
Un label, en fait, c'est une marque qui permet de sortir des tracks de différents artistes. Donc par exemple Ypsilove, il est sorti sur Club Azur. Et du coup, Club Azur va distribuer partout sur toutes les plateformes Ypsilove.
C'est bien, un petit cours de technique comme ça fait plaisir. Comment on fait partie du Club Azur? Par exemple moi, si je mixe un peu, je peux venir.
Si tu veux, tu m'invites au resto. Ensuite tu me payes un ordi.
Ça va. Ça c'est bon. Enfin l'ordi on verra, mais le resto déjà on peut y aller. Non, en vrai c'est spécial. Enfin c'est vraiment une bande de potes à la base et des gens qui arrivent.
Après maintenant c'est en train de s'ouvrir vu que c'est devenu un label. Donc en fait il faut envoyer ces morceaux sur le mail et en fait ils écoutent tout et s'ils aiment bien je pense qu'ils vont signer.
J'ai pas eu encore la chance de te voir sur scène.
C'est vrai?
Ouais.
Mais
par contre je sais que c'est une dinguerie, c'est une folie. J'ai des potes qui t'ont vu l'année dernière au Versailles Electro. Enfin, malheureusement j'ai pas pu y aller, c'était dingue, il y avait 20 000 personnes à peu près.
Un truc, 19 000, c'était fou.
C'est un truc comme ça. Il y a une différence de mixer devant énormément de personnes, contrairement à une boîte de nuit avec très peu de monde, un petit peu plus de proximité.
Ouais, il y a quand même une différence. Mixer devant énormément de gens, en fait paradoxalement il y a une sorte de distance qui se crée parce qu'on est un peu loin. Enfin c'est stressant mais on se rend pas compte.
C'est une marée humaine.
Ouais,
quand
en fait
toi.
On se rend moins compte. Après quand t'arrives dans un club où c'est vraiment il y a une sorte de côté un peu plus arène où les gens sont très proches, c'est un autre feeling parce que tu vas plus communiquer avec les gens un peu plus de manière spontanée. Tu peux leur serrer la main, tu vois. Bon, en exagérant.
Tu préfères?
Non, j'aime bien les deux. Même de plus en plus les festivals, je crois.
En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'on va te voir cet été au Cocorico Electro, au château de la Ferté-Saint-Aubin, le 12, 13 et 14 juillet. Comment on prépare un show en festival?
D'ailleurs, il y a mes parents qui viennent à cette date.
C'est vrai?
Oui.
Eh ben, si vous voulez voir Epsilon et les parents d'Epsilon,
si vous voulez voir mes parents,
rendez-vous 12, 13, 14 juillet au Cocorico Electro. Comment tu prépares un show, un live en festival?
En fait, ça revient un peu avec ta question d'avant. C'est un peu différent la préparation d'un set en club et d'un set en festival. Un festival, ça va être des timings assez courts en général, c'est une heure et demie de set. Alors qu'en club, tu peux pousser jusqu'à 2-3 heures de set. Un festival, en fait, ça dépend de ton horaire, ça dépend comment t'es placé dans le festival. Mais moi, j'aime bien quand même préparer mes edits, des nouveaux remix, même des mashups, des enchaînements. J'aime bien quand même préparer un sorte de show, en fait. Comme si c'était un live set, en fait. Même plus un DJ set, c'est carrément
c'est un live. C'est un spectacle.
C'est un show. Et je trouve que ça s'y prête bien. Et comme ce que faisait Justice ou Daft Punk à l'époque, en fait c'était même pas des DJ sets, c'était des lives où ils remixaient leurs tracks dans tous les sens, ils faisaient des mashups, ils enchaînaient avec d'autres trucs. Et ça c'est ce qui m'inspire le plus pour les festivals. Et après on peut aussi adapter en fonction du public, on peut ressentir un peu la vibe et réajuster un peu en fonction de l'ambiance. Si je vois qu'il y a une track qui marche un peu moins bien ou que c'est pas la vibe, c'est pas le moment, je vais pas la mettre.
Tu t'autorises un changement en direct.
Ouais carrément. Il faut improviser aussi parce que c'est le principe du DJ en fait.
Epsilon, avant que tu prennes les platines, c'est la première fois que tu passes nous voir ici dans les studios.
Oui.
C'est en quelque sorte un premier rendez-vous, si je puis dire. Du coup j'ai trouvé sur internet les 50 questions les plus posées pour un premier rendez-vous. Je les ai sous les yeux. Il y a de tout comme questions, des un petit peu plus farfelues comme des un peu plus débiles. De 1 à 50 à son numéroté, je vais te demander d'en choisir 3 et je vais te les poser.
Ok. 35.
Epsilon, c'est quoi ta morning routine?
Alors, ma morning routine, si tu veux tout savoir, je me réveille, je prends ma douche. J'aime bien aller courir maintenant le matin. Revenir prendre ma douche, mettre du sérum sur ma peau parce que pour avoir une peau de bébé. Ensuite.
C'est vrai que t'as une très belle peau.
Merci.
Et c'est exactement ce que j'ai dit quand t'es arrivé.
Eh ben, souvent on me dit que j'ai une peau de bébé.
Ben, je trouve. Aussi.
C'est gentil, c'est adorable.
Il est trop bien ce premier rendez-vous.
Attends, j'ai pas fini. Ensuite,
pardon, vas-y.
Je mets une crème hydratante. Bah, sur la peau.
D'accord.
Un petit coup de déo et puis voilà, on est parti pour la journée.
Ouais, c'est parti.
Petit coup de parfum aussi, histoire de sentir bon.
Bah, tu sens très bon, c'est exactement ce que j'ai dit.
Mais
décidément, cool, tout se passe tellement bien.
On va aller boire un verre après. Hein.
Deuxième question, parmi les 50 questions les plus posées lors d'un premier rendez-vous, je te laisse choisir, c'est numéroté.
42.
La 42. Oh, Epsilon, es-tu un psychopathe?
Alors,
si tu veux, j'ai la définition du psychopathe.
Ok.
La psychopathie est un trouble de la personnalité caractérisé par des désordres émotionnels et des comportements antisociaux.
Ok.
Est-ce que tu es
antisocial,
psychopathe?
Je pense pas. J'ai l'impression d'être plutôt quelqu'un de social. J'aime bien parler aux gens. Genre là, j'aime bien te parler. Tu vois, genre.
C'est moi aussi, j'aime bien te parler.
Non, en vrai, je crois pas être un psychopathe.
Bon ben, nous voilà rassurés. C'est bon, on va pouvoir venir te voir en concert. Ça c'est nickel. Une dernière question, Epsilon.
15.
La 15. Quel a été ton pire rendez-vous galant, enfin le pire rendez-vous galant que t'as vécu?
Pire rendez-vous galant, je pense c'est un rendez-vous où j'ai tout donné et vraiment. Et le lendemain, la personne m'a plus jamais répondu.
Mais voilà. Je crois qu'on a eu le même rendez-vous à Epsilon et je pense que vous aussi dans votre voiture, vous savez ce que c'est.
C'est horrible. À grand plaisir.
On en a appris beaucoup plus, on va pouvoir faire ce petit rendez-vous. En tout cas, ton dernier morceau, ton dernier single est disponible. D-I-S-K-O, on dit ça, yes, ou disco?
On dit disco ou D-I-S-K-O comme tu veux.
C'est dur à dire D-I-S-K-O. Mais en tout cas, il est trop cool, disco, qui est dispo sur toutes les plateformes et que vous pouvez écouter aussi sur Voltage. Epsilon, les platines sont prêtes, elles, yes, sont là. Il y aura du Mylène Farmer, il y aura du disco, il y aura du Epsilon, j'imagine.
Ouais,
dans ton
il y
set.
Aura un peu de tout, ouais. C'est un melting pot de Epsilon.
Vous allez, voilà, pouvoir le retrouver aussi sur la scène du festival du Cocorico Electro, 12, 13, 14 juillet. Epsilon, ouais, on te laisse les clés de Voltage, on te laisse t'installer.
Bah, c'était adorable en tout cas, merci de m'avoir reçu et c'était super.
Merci,
je vais mixer là comme un fou.
Rendez-vous tous les vendredis dès 18h30 pour le warm-up sur Voltage Dance Music.
Vous êtes au cœur de la nuit et on repart en musique sur Voltage.
Vous êtes au cœur de la nuit Voltage.
Je suis l'intelligence artificielle qui vous accompagnera pour vous faire découvrir les moments les plus passionnants de la rédaction. Et nous débutons avec cette première découverte.
Voltage Dance Music, et franchement je vous le dis les amis, c'est incroyable, une star internationale est avec nous, on est venu lui rendre visite ici à l'hôtel. Zara Larsson est notre invitée ici sur Voltage Dance Music, si vous ne la connaissez pas, ce qui m'étonnerait, Zara Larsson c'est ça. Zara Larsson est notre invitée ici sur Voltage. Franchement, on est trop heureux de t'accueillir ici en France.
Thanks, merci. Yes, me too.
Zara Larsson, j'ai plein de questions à te poser. Déjà, on va commencer par le début de ta carrière et à la fin, j'aurai un petit jeu et peut-être une surprise pour toi. Zara, tu as 26 ans et pourtant tu as déjà 15 ans de carrière. En 2008, tu as participé et gagné un jeu télé en Suède, l'équivalent pour nous de la France, un incroyable talent. Après, tu as enchaîné des EP, des albums. Comment on gère la notoriété à 11 ans?
I just don't want to do anything else in my life. This is all I've ever wanted to do. And I'm just so happy that I can keep doing it for this long of a period. And hopefully it'll be at least 15 more years.
En fait, elle a toujours voulu faire ça. Il n'y a rien d'autre vraiment qu'elle aurait souhaité faire. Donc elle est très contente de pouvoir le faire, que ça continue. Et puis elle espère que ça continuera encore au moins 15 ans.
Et comment on arrive à durer dans le temps? Parce que bah, c'est quand même pas le monde des bisounours, l'industrie musicale. Hein. Comment t'as fait pour t'en sortir?
I just have so much fun doing it. I love what I do. And I think it's the consistency, maybe.
Ouais, la consistance, c'est important. Continuer à sortir des titres, à faire des concerts, les albums, voilà, c'est consistant. Et surtout, elle adore ce qu'elle fait et elle s'amuse en le faisant. Donc ça, c'est très important. Donc elle pense qu'à partir du moment où on fait ce qu'on aime et qu'en plus on s'amuse en le faisant, il n'y a pas de raison que ça ne marche pas.
Exactement. Bah écoute, je suis tout à fait d'accord avec toi, Zara Larsson. Et puis en 2016, une rencontre qui t'a propulsé sur le devant de la scène internationale. David Guetta t'appelle pour chanter sur l'hymne de l'Euro de foot 2016. This one's for you, David Guetta, bah, qui te propose une collab. Comment on se sent à ce moment-là? Est-ce que tu as peur? Est-ce que tu es stressé? Est-ce que tu hésites?
In 2016, I was very excited. It was a new world for me, especially doing the opening song for the Euro Cup, which is one of the biggest events in the world.
Alors, en 2016, lorsqu'il l'a contactée, évidemment, elle était non seulement excitée, mais hyper heureuse. Et puis, voilà, la Coupe Euro, c'était quand même un des événements les plus gros du monde. Participer à la chanson pour ça, c'était juste incroyable. Puis après, c'est elle à son tour qui l'a contactée, lui, pour sa chanson On My Love. Donc, elle fait un petit coup, la boucle était bouclée, quoi, en fait. Elle est contente.
Zara, on en parlait tout à l'heure. Tu as bossé avec David Guetta. T'as enchaîné avec des tubes aussi comme Lush Life, Never Forget You, Symphony avec Clean Bandit, Words avec Alesso, et puis dernièrement On My Love qu'on vient d'écouter. Ça fait quoi de bosser avec les meilleurs DJ producteurs du monde? Comment ça se passe d'ailleurs une collab?
It's amazing, it really is. And I love DJs, I really love to tap into the EDM world because I feel like it makes so much sense with pop singers and EDM tracks. I feel like they go really well together. It's incredible, I mean you're right. David is one of the biggest and the
Alors, elle adore le monde des DJ, le monde de l'électronique. En plus, elle trouve que ça se marie très bien avec la musique pop, qui est ce qu'elle fait. Et concernant David Guetta, bah, comme tu disais, c'est le top du top. Et puis, en fait, elle dit, il est au top depuis que je suis née, en fait. Et voilà, il sans cesse des tubes, des hits, des numéros 1. Et il est toujours, toujours au top à chaque fois qu'il sort quelque chose, quoi.
Ouais, c'est vrai. J'ai le même âge que toi, donc je suis d'accord. Depuis que je suis gamin, je l'ai toujours connu, tout comme toi.
Yeah, he's been around.
Et tu es toujours en contact avec lui, c'est devenu un ami, vous appelez de temps en temps ou
I think when I see him on festivals of course sometimes I drop a DM like hey you know but we're not close
Alors, elle le croise hors de festival, parfois elle lui envoie des petits DM. Après, ils ne sont pas proches, mais elle espère collaborer à nouveau avec lui dans le futur. Et après, elle lui dit que c'est vraiment quelqu'un de profondément gentil. Voilà. Il est toujours adorable, toujours gentil, et beaucoup, beaucoup de gens dans le milieu disent ça de lui.
En tout cas, la prochaine fois que tu le vois, Zara, n'hésite pas à lui dire de venir nous voir sur Voltage. Tu verras que c'est trop bien et tout, et on te remerciera.
Yes.
Et puis le 9 février prochain, ton nouvel album sort, Vénus.
Yeah.
C'est ton troisième album et j'ai cru comprendre qu'il était très important pour toi, cet album. En quoi il est si important?
Well, I think all of my songs are important that I release, or it just feels like this one was really, really exciting to make. I had so much fun. It feels personal. It feels dynamic. I didn't feel any pressure in making it.
Alors c'est un album qui parle beaucoup d'amour, hein, parce que Vénus c'est le dieu de l'amour. C'est un album qui est très personnel pour elle, qui est assez dynamique. Elle pense qu'il y a des titres dans l'album qui plairont à tout le monde, qui parleront à tout le monde. Après, à côté de ça, chaque chanson qu'elle sort est importante pour elle, puisque tu lui disais l'album est important. Mais celui-ci, en tout cas, elle n'a pas eu de pression en le faisant. Elle s'est amusée en l'enregistrant, elle a pris son temps et c'était un super moment.
Vous êtes sur Voltage Dance Music avec une invitée exceptionnelle en ce moment même, star internationale, elle est suédoise, Zara Larsson est avec moi ici sur Voltage Dance Music. Zara, elle a fait des morceaux avec David Guetta, avec Clip Bandit, avec Alesso, on la connaît par cœur, on diffuse tous ses titres. Un nouvel album qui sort le 9 février prochain. Franchement, c'est vraiment un kiff encore une fois de t'avoir avec nous ici sur Voltage. Et Zara, comme promis, comme je te l'avais dit tout à l'heure, c'est l'heure d'un petit jeu. J'ai préparé un petit jeu pour toi, déjà pour mieux te connaître. Et puis pour savoir un petit peu tes préférences, je t'explique, c'est très très simple.
Alright.
Je vais te donner deux propositions et tu vas juste me dire laquelle des deux tu préfères, tout simplement.
Like this or that.
Par exemple, on va commencer.
Oh.
Est-ce que tu es plus croissant ou pain au chocolat?
C'est croissant.
Croissant?
Yeah.
Moi aussi.
Yeah.
Parfait. Yeah. On part sur le cinéma. Avatar ou Twilight?
Avatar.
Ah, sans hésitation.
If you would ask me like 10 years ago, it maybe would have been Edward and Bella, yeah, Twilight.
Ouais, il y a peut-être 10 ans, ça aurait été Edward et Bella, mais là, c'est Avatar.
But I love Avatar.
Ah, nager dans les Caraïbes ou nager dans un lac gelé?
Caribbean, please.
Les Caraïbes, s'il vous plaît.
Yeah. Rihanna ou Beyoncé?
Beyoncé is my number one. Everybody knows that. I love them both, but...
Elle adore les deux, mais c'est pas un secret. Beyoncé, c'est vraiment sa numéro 1.
J'ai cru comprendre aussi qu'on t'appelait... Enfin, tu avais un surnom, c'était la Rihanna du Nord. Ça te dérange, ce surnom, ou pas?
Oh, I love that.
Elle adore.
A lot of people say that we have similar voices. I don't personally hear it, but it's a very big compliment.
C'est un très gros compliment. Alors, les gens disent qu'ils ont un petit peu une voix qui se ressemble. Elle voit pas trop la ressemblance, mais voilà, elle prend le compliment avec grand plaisir.
Sneakers ou talons?
The heels.
Talons.
Ok. Sneakers ou d'un?
Dime.
C'est vrai? J'avais prévu en sneakers.
I mean, I don't say no. I love them both. Yeah.
Elle dit pas non. Hein.
C'est vrai? Bah alors je te l'offre. Et pour toi? J'avais prévu en sneakers, j'ai pas de dents. Et pour terminer, David Guetta ou Alesso?
Ouf. Well, I'm in France, I have to say David. Let's do David, I love him.
Oui, bon, elle est en France, alors elle va dire David. Hein.
Yeah.
Bon, allez, on accepte. Merci beaucoup, merci infiniment,
merci.
Zara Larsson, d'être passé nous voir ici sur Voltage. On rappelle ton nouvel album qui sort le 9 février prochain. L'album s'appelle Vénus et puis une tournée mondiale, dont un concert en France au Trianon le 24 février prochain. Merci beaucoup, Zara Larsson. D'ailleurs, si vous venez d'arriver et que vous avez loupé une partie de l'interview, ne paniquez pas, ne vous inquiétez pas, tout est déjà disponible sur voltage.fr. On continue ensemble en musique avec les plus grands classiques dance, les dernières nouveautés, les plus gros hits. Vous êtes sur Voltage Dance Music.
Voltage.
Voltage.
Dance Music.
Chaque nuit, on écoute ensemble les meilleurs titres du moment sur Voltage. soir, chaque nuit nous nous retrouvons pour découvrir les meilleurs reportages, interviews de la rédaction. Je suis l'intelligence artificielle qui vous accompagnera toute cette nuit. Bienvenue sur Voltage.
Bonjour à tous. Depuis quelques années maintenant, les réseaux sociaux font partie de notre quotidien et pour certains, c'est même devenu leur métier. À l'image de l'Orléanaise Clémence Allaire, influenceuse mode, beauté et lifestyle, qui compte aujourd'hui près de 120 000 abonnés sur Instagram. Bien loin du business juteux et très souvent indigeste développé par les stars de télé-réalité, Clémence, elle, noue des relations particulières avec les marques à la renommée parfois mondiale. Des marques qui ont choisi de faire appel à des créateurs de contenu pour assurer leur présence sur les réseaux sociaux. Alors pourquoi et quel est leur intérêt et comment cela fonctionne-t-il? Clémence Allaire a accepté de répondre à nos questions. Rencontre.
Je m'appelle Clémence, j'ai 30 ans, je suis orléanaise et je suis maman d'un petit garçon. J'ai lancé tout d'abord un blog, quand c'était la folie des blogs en 2010. Bon, ça fait un petit moment déjà. J'étais au lycée, j'adorais écrire. Ma matière préférée c'était le français et j'adorais la mode, j'adorais la beauté et je me suis dit il faut que je trouve une plateforme pour écrire ce qui me fait kiffer quoi. Et du coup j'ai lancé mon blog et à partir de là je pouvais m'exprimer, je pouvais parler mode, beauté, lifestyle, etc. Et je me suis dit pour attraper les gens, j'ai décidé d'interviewer des célébrités. J'ai pas de formation de journaliste à ce moment-là, je ne suis personne, etc. Mais le format blog intéresse vachement les gens et donc on me dit oui. Donc j'ai fait des super interviews. Lou Doyon au Théâtre d'Orléans, incroyable.
Ok.
Vraie interview de grande. David Beckham, alors là c'était waouh.
Ah ouais.
Ouais, c'était vraiment cool. Et des personnalités de la mode, etc. Et ensuite Instagram est arrivé et à partir de là, bah, ma communauté du blog m'a suivi sur Insta et c'est grâce à ça que j'ai pu du coup construire une communauté et grandir via ce réseau social.
C'était le blog fonctionnait déjà bien avant ?
Ouais, super bien. Franchement, c'était trop cool. Les gens étaient hyper curieux, attendaient mes articles, c'était vraiment sympa. Et toute la folie Facebook, Twitter et surtout Instagram a complètement changé la donne et aussi pour énormément de médias comme je pense à la presse, etc. Les réseaux sociaux ont pris une grosse place et on a vite compris que c'était un vrai moyen de communication à travers des photos, etc. Donc voilà, ça a commencé à suffire aux gens en fait, ce type de format. Donc il faut évoluer aussi avec son temps, même si la passion d'écrire était encore là. Et voilà.
Pour comprendre le fonctionnement d'Instagram aujourd'hui, comment justement fonctionne ton travail? Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu proposes? Et surtout, comment ça marche?
Instagram, donc déjà on est sur un réseau social. Tout le monde a accès à Instagram, mais on peut vivre de cette plateforme. Donc moi, mon travail aujourd'hui, c'est de mettre en lumière des marques, des produits, de la beauté, de la mode, des expériences culinaires, des expériences hôtelières via mes propres photos. Donc voilà, il y a un vrai travail du coup de création, c'est ça, voilà. Prendre des photos, bah ça prend aussi. On prend pas des photos n'importe comment, donc on s'équipe. Il y a un vrai travail même avec la lumière, etc. Vraiment, le but, c'est de rendre l'objet encore plus beau qu'il ne l'est déjà. Donc, il y a pas mal de boulot derrière. Il y a un vrai travail en amont avec les marques. Donc, on reçoit des briefs. Ils nous disent voilà ce qu'ils veulent exactement. Et nous, on doit reproduire le truc de manière parfaite, en fait. Et c'est très challengeant au quotidien.
C'est un fonctionnement d'agence de communication.
Clairement. J'ai un brief, la marque me contacte, j'ai un brief à respecter avec des deadlines. Donc voilà, je dois envoyer ma photo, ma légende ou ma vidéo, parce que maintenant il y a le format vidéo qui marche énormément bien, avant telle date. Et faut que tout soit nickel pour que je puisse poster.
Comment ça se passe justement le lien avec les marques? Est-ce qu'elles te contactent? Tu les contactes? Comment ça fonctionne?
Alors, il y a certains créateurs de contenu qui vont aller au culot contacter des marques parce que bah, ils ont envie de travailler avec telle marque. Ils se disent bah, moi j'ai un super compte Instagram, donc why not? Et il y a les personnes, moi je fais plus partie de ces personnes-là, qui attendent que les marques viennent parce que j'ai toujours peur, enfin j'ai pas envie de déranger ou quoi, et du coup je préfère qu'on vienne vers moi parce que voilà, la marque estime que je corresponds à ce qu'elle veut, et elles viennent vers moi, voilà, en me disant voilà, on aime bien ton profil, on aime bien ton univers, voilà ce qu'on sort comme produit et on pense que ça correspond complètement à ce que tu es. Et du coup, après, bah, je regarde, j'accepte ou pas, parce que des fois, on dit non parce que ça nous correspond pas forcément. Il faut savoir dire non, parce qu'après, on est très, très vite sous l'eau. Et voilà.
C'est justement, ça, pour qu'on se rende compte, ça peut être combien de propositions par jour, ou par semaine, ou par mois,
je sais pas. Alors, c'est complètement différent tous les jours.
Mes journées, hors Noël, parce que j'imagine Noël, c'est la folie.
Hors Black Friday, hors Noël, tous ces trucs-là, oui. Clairement, en moyenne, je dirais, on peut aller jusqu'à 2 propositions par jour.
Ah ouais, d'accord. Ok. Toutes sérieuses.
Bah, il y en a qui sont moins sérieuses. Hein. Il y a des marques, c'est clairement du dropshipping, et ça, on n'y va pas du tout, parce que bah, ça peut être même dangereux pour le consommateur, et puis même pour son image, c'est vraiment pas bon. Mais oui, clairement, aujourd'hui, les marques ont très très bien compris ce business qui est juste incroyable, et préfèrent limite faire de l'influence que faire de la télé.
Est-ce qu'aujourd'hui, comparé à il y a quelques années, ça marche encore plus,
oui.
Ou est-ce qu'on sent qu'il y a un ralentissement? Parce que là, ça fait quelques années maintenant qu'on parle du métier de l'influence, parce que vous êtes toujours autant happé par les marques, les choses comme ça.
Moi, je trouve que oui.
Ouais, okay.
Ouais, franchement, je trouve que oui. Comme je disais tout à l'heure, vraiment, les marques, elles se disent que Instagram, c'est une mine d'or pour elles, parce qu'on va toucher le cœur de cible tout de suite, en fait. Voilà, une marque de sport va tout de suite aller vers un influenceur sportif et va tout de suite trouver la personne qui va parler de ses produits. Donc c'est tout bénef, clairement. Après, voilà, il y a d'autres réseaux sociaux qui arrivent, enfin qui sont déjà là, bien implantés, comme TikTok. Et là, il y a une grosse comparaison avec Insta. Mais on est sur autre chose, on est sur une autre génération. Donc pareil, il faut vivre avec son temps. Mais franchement, je trouve qu'il y a encore beaucoup de travail sur la partie Insta.
Sans chiffrer, est-ce que tu sais si c'est moins cher, entre guillemets, de faire appel à des influenceurs que de faire appel à une grande chaîne de télé, par exemple, pour faire de la pub?
Ouais. Okay. Moi, j'ai travaillé dans le marketing d'influence avant d'être 100% sur Insta. Du coup, j'ai pu assister au backstage de tout ça, de voir quel budget les marques pouvaient mettre pour une campagne avec X influenceurs. On est clairement en dessous d'un spot publicitaire.
D'accord.
C'est après, voilà, il y a des influenceurs qui sont très, très, très puissants, où ça chiffre forcément beaucoup, parce que forcément, ils font extrêmement vendre. Donc là, forcément, on peut être un peu choqué par rapport au prix. Et voilà, mais le prix d'une pub juste avant le 20h, c'est beaucoup plus cher.
Quel est le point négatif dans ce travail? L'exposition sur les réseaux?
Bah oui, il y a le côté surexposition de sa vie. Après, clairement, il faut le dire, moi, je parle pour moi, je montre 5% de ma vie. Enfin, voilà. On montre Instagram, c'est pas la vraie vie, et je suis trop contente de pouvoir le dire à la radio. Instagram n'est pas la vraie vie. Il faut faire déculpabiliser les gens qui se comparent à ce qu'ils voient sur les réseaux sociaux. Clairement, c'est pas la vraie vie du tout. Et les points négatifs, c'est ça, c'est quand on fait ce travail, ben on va avoir toujours cette pression de l'image. Est-ce que je vais être assez bien? Est-ce que mes photos vont être mieux que celles de ma copine qui est sur Insta aussi? Oh, elle, ça marche peut-être un peu mieux. En fait, on est toujours dans la comparaison et ça peut faire mal. Mais après, voilà, faut être bien entouré et se raisonner. Moi, c'est pour ça. Moi, j'ai mon mari qui est là, j'ai mon agent, j'ai des gens qui me disent tout le temps, bah arrête un peu. Des fois, tu te montes la tête pour rien. Et voilà, et après, autre point négatif dans ce métier, c'est que bah, le métier d'influenceur, entre guillemets, c'est perçu comme quelque chose de facile. C'est pas forcément pris au sérieux, mais franchement, derrière cette image, il y a tellement de boulot, il y a tellement de pression aussi qu'on s'inflige nous. Donc, voilà.
S'il y avait un conseil, c'est pas un conseil, mais si en gros, si tu devais faire passer un message par rapport à tout ça, ce serait lequel?
Je l'ai dit juste avant, je crois, mais Instagram n'est pas la vraie vie, vraiment. N'importe quel réseau sociaux d'ailleurs, ce que vous voyez, voilà, c'est une toute petite partie de la vie des gens, et c'est surtout ce que les gens veulent montrer. Et après, vous pouvez bien sûr suivre des gens qui vous inspirent et qui vous donnent envie aussi de réaliser des choses, de voyager, de faire plein de choses. Mais ne vous comparez pas à ce que vous voyez sur les réseaux sociaux, ça peut être dévastateur, clairement. Moi, je l'ai vu en travaillant dans le marketing d'influence. Je prenais des stagiaires de 3e. S'il n'y avait pas plus de 200 likes sous la photo, j'étais une mauvaise personne, et ça m'a brisé le cœur. Je me dis, mais on en est là, quoi. Donc c'est trop cool, les réseaux, ça nous permet, voilà, de rêver un peu, de s'échapper, de rire parfois, parce qu'il y en a qui sont très forts là-dessus, d'apprendre aussi plein de choses. Il y a des gens qui sont trop bien calés, il y a des infographies trop cool sur les réseaux sociaux et tout, mais ne pas se monter la tête non plus, et voilà.
simplement.
Une dernière question à destination peut-être des jeunes auditeurs qui nous écoutent et qui veulent faire quoi plus tard, ils veulent devenir influenceurs. Est-ce que c'est... Moi c'est un sentiment personnel, c'est que j'ai l'impression que toutes celles qui ont explosé justement dans ce milieu-là, qui arrivent à en vivre, elles c'était pas volontaire au départ.
Ouais.
Et est-ce que aujourd'hui on peut réellement décider plus tard je serai influenceur?
Je crois pas. Franchement, je crois pas. Je pense que si quelqu'un a envie de faire ce métier, bah il peut se donner les moyens à fond. Mais je peux pas dire à 100% qu'il va réussir. En fait, je pense que c'est, il y a aussi une part de chance aussi, je pense aussi, parce que il suffit de poster une vidéo et d'un seul coup d'avoir le lendemain matin 1 million de vues et là, waouh, tout commence. Enfin, il y a des études, il y a des formations maintenant pour essayer de faire au mieux, d'avoir un beau feed Insta, de pouvoir faire plein de trucs trop cool. Mais je pense que tout le monde ne peut pas faire ça et il y a une partie de chance quand même, faut le dire. Voilà, après si la personne a vraiment envie de le faire, elle peut se donner les moyens, faire de jolies rencontres, faire des stages aussi dans le marketing d'influence, rencontrer des gens. Mais voilà, c'est quand même très fermé, mine de rien.
Salut à vous et bienvenue sur Voltage, où je vous ai fait ma sélection d'un nouveau meilleur moment de la rédaction de Voltage. Bonne écoute.
L'invité du 10-15.
Maud, t'es comment sur le ménage? C'est comment le ménage et toi?
C'est pas ouf.
C'est pas une histoire d'amour?
C'est pas une histoire d'amour, j'aime pas trop faire ça et c'est le bordel chez moi.
Je pense que notre invité va te faire aimer le ménage. C'est Bruno du compte Instagram Beijing Clean. Je suis très content de te recevoir, Bruno.
Très content d'être ici, merci de me recevoir.
Merci d'avoir accepté l'invitation de Voltage. Bruno, tu as un compte Instagram qui s'appelle Instagram et TikTok qui s'appelle Beijing Clean.
Exactement.
Et dessus, tu donnes mais toutes les astuces possibles et inimaginables pour faire le ménage, pour enlever des tâches, pour tout ça quoi. C'est un ménage simple, efficace, économique
et écologique.
Ouais.
Oui, j'essaye d'utiliser des produits qui sont moins nocifs pour la planète, mais moins nocifs pour nous aussi en tant qu'utilisateurs.
Tu sais pourquoi j'adore ton compte TikTok?
Non, dis-moi.
C'est parce que c'est archi satisfaisant de regarder les vidéos, de voir tout devenir nickel chrome à chaque fois.
Et ça te donne envie après de faire ça chez toi, ouais. Et en fait, non.
Bah ça c'est le meilleur compliment. Donner envie de s'y mettre ou de s'y remettre. Oui.
Bah alors tiens, justement, comment t'en es venu à créer ce compte TikTok où tu donnes plein d'astuces pour faire le ménage?
Alors au début c'est vraiment une aventure, j'ai jamais rien calculé. En fait, je travaillais dans le monde de l'opéra, moi, pendant 15 ans. Et particulièrement les 6 dernières années avant que je m'arrête, avant que la crise sanitaire arrive, je m'occupais des tournées internationales pour une grande chef d'orchestre. Donc je voyageais partout en Europe et je vendais des concerts. Et puis évidemment tous mes projets professionnels dans la musique se sont effondrés avec la crise sanitaire. Ouais. Évidemment, fermeture des frontières, fermeture des salles, interdiction de se regrouper à plus de 10, enfin bon bref. Et du coup, vraiment pour passer le temps quand les journées étaient un peu longues, j'étais confiné dans ma maison familiale à près de Toulouse et c'était vraiment un moment propice au rangement, au tri, au nettoyage. Et j'ai créé un compte Instagram poussé par des amis sans prétention aucune, je partageais des petits trucs et astuces vraiment simples avec des produits très très simples comme le savon de Marseille, le blanc de Meudon, des choses, voilà. Et en fait, je me suis rendu compte que au-delà de la sphère amicale et familiale, il y avait plein de gens qui commençaient à arriver et qui commençaient à me poser des questions dont j'avais les réponses déjà, qui me semblaient être tout à fait des questions qui étaient très banales. Et j'ai compris que la banalité était très importante, il fallait jamais la sous-estimer.
Et je suis sûre qu'il y a des gens qui ont demandé au tout début comment nettoyer leurs courses, parce que je me rappelle au début du Covid, t'avais tellement peur, tu posais tes courses et tout. Je suis sûre qu'il y a eu des questions comme ça.
Et ben non.
Non ?
Étrangement, j'ai jamais eu cette question des courses.
Moi, je mettais des gants.
Oui, c'est vrai. Non, mais c'était l'horreur à cette période-là. C'était vraiment l'horreur. Mais donc, moi, j'ai commencé à faire des petites vidéos, etc. Et puis, de plus en plus de gens sont arrivés. Et l'été s'est terminé. Je suis revenu à Paris. Évidemment, les projets dans la musique étaient complètement à l'arrêt encore. Et je me suis dit, mais tiens, regarde, j'ai 1000 abonnés. Est-ce que ça vaut pas le coup de faire ça plus sérieusement ? Ouais. Parce qu'il y a quand même un échange avec des gens que je connais pas. Et qui sont apparemment satisfaits quand je leur réponds. Alors j'étais là, waouh. Moi j'ai toujours adoré ce sujet du ménage, vraiment, depuis que je suis enfant. Enfin bon,
faudra qu'on l'explique. Hein.
Alors j'ai
passionné
encore
par le ménage depuis que t'es enfant.
Alors ça peut paraître étrange, mais promis, j'ai vraiment des souvenirs où
je nettoyais.
Non mais c'est vrai.
Okay.
Alors j'ai pas fait de psychothérapie encore pour savoir, tu vois. pourquoi il y a cet amour du ménage, etc. Mais j'ai des souvenirs très très clairs de quand mes parents sortaient faire des courses ou sortaient chez des amis, de me précipiter pour vraiment passer un coup d'aspirateur et la serpillière.
Tu veux pas venir voir mes filles parce
avec grand plaisir. je réfléchis à une série de vidéos sur je vais rencontrer ma communauté.
Ah ouais, mais vraiment.
Mais non, mais j'adore ça et j'adorais aussi entendre mes parents dire oh là là que c'est pro. Ben j'aimais. Enfin vraiment en toute humilité, mais j'aime bien rendre service et en fait c'est le lien aussi que je fais entre ces 15 ans dans la musique où j'étais au service d'artistes exceptionnels, vraiment où je les aidais dans leur travail, et aujourd'hui au service de milliers de personnes qui se posent des questions très concrètes, à savoir le ménage dans la vie quotidienne. Alors j'ai pas les réponses à toutes les questions, mais c'est un sujet qui me passionne et qui me donne envie de vraiment travailler pour plus tard transmettre ces choses. C'est le bon sens qui s'est perdu ces dernières années, j'ai l'impression.
Et bah écoute, ça tombe très très bien parce qu'avec Maud, on a genre mille et une questions à te poser, on a des galères au quotidien. On va parler tout ça avec toi, Bruno, merci d'avoir choisi Voltage. Voici Sophia Carson, Come Back Home.
L'invité du 10-15.
Notre invité aujourd'hui, c'est Bruno du compte Instagram Beijing Clean, où tu donnes plein d'astuces pour faire le ménage, pour enlever des tâches, pour que ça soit simple, efficace, économique. Et ça tombe très très bien que tu sois là, Bruno, parce qu'en fait on a plein de questions pour toi. Avec Maud.
Avec grand plaisir.
Et Maud a ramené.
Ah là 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 là. Alors, c'est un manteau beige crème, comme on peut le voir. Le problème, comme tu le vois, j'ai une grosse tache derrière dont je ne connais pas la nature. Ouais. Je ne sais pas du tout l'origine, je ne sais pas d'où ça vient. Je l'ai déjà passé à la machine. J'ai mis un détachant, bon je vais citer la marque, excusez-moi, c'est genre le Vanish Action de base. Ça ne fait rien, il y a toujours cette tache.
Ouais, eh bien.
Qu'est-ce qu'on fait?
Moi, sans hésitation aucune, c'est l'alcool ménager à 70%.
L'alcool ménager à 70%? Et je mets dans la machine ou
et tu prends. Non, tu tamponnes et tu le mets, et je suis sûr que ça va marcher. Tu tamponnes sur la tâche.
Ok.
Et je suis sûr que ça va marcher.
Et après, je le lave, je fais
et
quoi?
Et après, tu passes en machine.
Ok, l'alcool ménager à
70%. Et je suis prêt à revenir. Franchement.
Ok, et je vais tester ça.
Non, mais c'est un détachant génial. C'est parti vraiment des produits que j'adore.
Et on s'en fout de ça. Parce que du coup, je sais vraiment pas d'où vient la tâche. Hein.
Non, c'est pas grave.
Attends, montre-moi parce que moi, je la vois pas.
Mais
ok, ouais, c'est chelou.
Oui.
Et derrière aussi, c'est tout taché, c'est tout gris.
Oui, en fait, tous les endroits où il y a des taches, je vais mettre de l'alcool ménager à 70
degrés. Ouais, de l'alcool, ouais, je suis sûr que ça va partir.
Est-ce que c'est un produit miracle? Parce qu'on en parlait avec Théo, genre n'importe quelle tâche, est-ce que c'est un produit qui peut marcher?
C'est ça qu'on voulait voir aussi avec toi. Est-ce qu'il existe un produit qui va permettre de tout enlever?
Non, il n'y a pas de produit, mais en tout cas, il n'y a pas un produit qui est capable de tout faire dans la maison, mais il y a quand même des produits tout terrain. Extraordinaire qui remplace justement énormément de produits qu'on retrouve dans les supermarchés, parce qu'en fait quand on se balade dans les supermarchés on nous fait croire qu'on a besoin d'un produit pour nettoyer le linge blanc et d'un autre produit pour nettoyer le linge blanc mais qui est blanc un peu moins blanc puis un autre et on s'y perd et en vérité on n'a pas besoin de tout ça. Moi il y a l'alcool ménager fait partie par exemple de mes indispensables. On peut donc nettoyer tous les textiles, ça va pas les abîmer. On peut nettoyer l'inox également, on peut nettoyer les vitres, c'est des produits qui sont ultra vertueux. Il y a le savon de Marseille évidemment, l'authentique savon de Marseille avec lequel par exemple moi je fais ma vaisselle depuis 2 ans et demi. Je n'ai plus jamais acheté aucun liquide vaisselle, mais je n'ai pas non plus acheté de spray pour les vitres parce que c'est le savon de Marseille ou l'alcool ménager.
Et c'est pas trop gras le savon de Marseille sur les vitres?
Absolument pas.
Non, ok.
Absolument pas. Je vous invite à tester. Ça, c'est la question que je reçois tout le temps. Mais est-ce que ça laisse pas un dépôt gras? Et j'ai fait maintes et maintes vidéos sur Insta et sur TikTok qui est récemment d'ailleurs une. Dans
mais
un
on café. Met le savon à même la vitre comme ça?
Non, on prend un espèce de filet ou une éponge, ce qu'on a sous la main, quelque chose qui raye pas, et on passe sous l'eau tiède, on frotte, un savon de Marseille, on nettoie, on rince avec un chiffon et on sèche.
Ok.
Et c'est vraiment impeccable. Ça c'est vraiment un produit que moi j'aime de tout mon cœur parce qu'il m'aide à faire mes je sais pas 50 choses sans mentir
mais
à la maison.
Mais en plus si je me trompe pas, le savon de Marseille c'est aussi super bon pour se laver, même pour la peau, tout ça.
Alors ça sèche un peu quand même, non?
Non, pas du tout. Moi je me lave pareil depuis 2 ans et demi avec le savon de Marseille à l'huile d'olive.
Ok.
Et ma peau est magnifique, rebondit.
Elle pulpeuse, elle sent bon.
Non mais ce que je veux dire c'est que mais c'est le jeu du marketing. Moi je fais du marketing comme étude et je comprends, et on a besoin de vendre et donc de susciter aussi beaucoup de besoins et de demandes, etc. Mais en réalité, je vous assure qu'avec du savon de Marseille, de l'alcool ménager et Par exemple, la pierre blanche de nettoyage, je pense qu'on va en reparler parce que vous allez me poser d'autres questions.
Mais je sais pas ce que c'est du tout ça.
C'est un produit solide, c'est de l'argile avec du savon compact qu'on fait mousser avec une éponge. Et avec ces trois produits, mais on nettoie vraiment dans les règles de l'art énormément de choses à la maison, vraiment de manière simple. Et écologique quoi. On n'a pas besoin de.
Mais tu trouves ça en grande surface là, la pierre blanche truc.
Oui,
bidule,
de plus en plus.
Ok.
Bientôt, d'ailleurs, c'est bon, pas une annonce, mais je travaille sur ma marque, donc voilà, je l'ai jamais dit publiquement.
Sur Voltage, on fait les confidences, on est bien.
Bruno, il y a plein de petites galères aussi qu'on a au quotidien, des taches sur des baskets, sur les murs.
Du feutre sur les murs quand on a des enfants.
Comment ça se nettoie? On en parle avec toi juste après Coldplay.
L'invité du 10-15.
Notre invité aujourd'hui, c'est Bruno du compte Instagram TikTok aussi, Begin Clean. C'est BGIN.CLEAN.
Exact.
Des chiffres et des lettres.
Bruno, on a plein de galères tous au quotidien avec le ménage, avec des tâches qu'on n'arrive pas à faire partir. Justement, il faut qu'on ait tes solutions pour faire partir certaines tâches.
Eh bien, allez-y, je vous écoute.
Ok, je commence ensuite, Motiva. Les baskets, ça c'est vraiment le truc trop relou. Les baskets quand elles sont tachées, comment on fait pour enlever les taches sur les baskets?
Alors ça dépend, il y a
les baskets. Déjà il y a plusieurs tissus de baskets,
tissu,
voilà.
Les baskets en cuir.
Les deux.
Les deux évidemment. Eh bien les baskets en tissu par exemple, est-ce qu'on a le droit de dire des marques?
Oui.
Ouais.
T'en cites trois à chaque fois.
Ah ok. En tout cas les Converse, il y a beaucoup de gens
Nike
qui portent
Evans.
Des Converse. Nike Evans. Okay. Donc les Converse, il y a donc un produit dont on a parlé tout à l'heure, c'est le savon de Marseille, mais vraiment qui détache de manière exceptionnelle.
Ok.
Et ensuite pour donner un petit coup de blancheur aux baskets, parce que ça c'est important, et aux lacets qui s'encrasse très rapidement, de l'eau très chaude et du percarbonate de soude. C'est en gros l'eau oxygénée solide. Et ça, on laisse tremper. Et je peux vous garantir que ça donne un coup de blancheur extrême, extraordinaire. Pour le cuir, là, pour le coup, il faut vraiment pas trop mettre d'eau. Mais toujours pareil, le savon de Marseille qui dégraisse. Et j'ai fait des vidéos dessus qui sont vraiment spectaculaires. Donc on prélève un peu de savon de Marseille directement sur le cube avec un chiffon doux, non pelucheux. Et on vient masser le cuir. Et donc ça va vraiment enlever les taches. Et pour les semelles, là pour le coup, la pierre blanche de nettoyage dont on parlait, c'est un mélange d'argile et de savon qui est absolument remarquable pour retrouver, alors jamais des baskets neuves, mais en même temps c'est pas très la mode je crois, les baskets neuves, mais des baskets propres.
Ouais.
Et c'est vraiment remarquable, enfin vraiment trop bien quoi.
En fait si je résume, à chaque fois il y a un petit top 3 qui arrive, c'est mais argile blanche, le savon de Marseille.
Et l'alcool ménager aussi quand même qui m'aide beaucoup, mais voilà. Voilà.
Sur les murs, alors moi c'est ma petite question à moi, parce que j'ai deux enfants qui adorent faire des dessins sur les murs avec des feutres. Alors forcément c'est pas forcément Picasso, hein, mes enfants encore,
non,
donc c'est pas
arrive.
Forcément très joli ce qu'elles font. Comment j'enlève le feutre sur les murs?
Eh bien ça m'est arrivé il y a pas très longtemps avec mes neveux qui étaient chez moi à Paris et qui ont fait un joli dessin sur le mur blanc. Et donc encore une fois, et bon, je suis désolé si je me répète, et en même temps j'assume 100% le fait de répéter ces mêmes choses. C'est qu'avec des produits écologiques on peut s'en sortir, et encore une fois la pierre blanche de nettoyage fait des merveilles quoi, vraiment, avec cette éponge particulière qui réussit à désincruster sans déglinguer le mur. Mais allez voir ma vidéo sur Insta ou sur TikTok, mais vraiment, que ce soit le crayon de couleur donc plus ou moins gras ou le feutre, il n'y a plus aucune
c'est
trace.
C'est parti quoi.
Mais ouais, vraiment.
Maud, tu sais ce qu'on va faire?
Non.
Puisque t'as aussi, tout à l'heure on en parlait, t'as aussi ramené ton manteau qui est taché. On va faire le test. Je veux que tu te filmes chez toi en train d'essayer.
Faut déjà que j'aille acheter les produits, mais ok.
Avec, c'est donc l'alcool ménager pour le manteau, pour enlever les taches sur le manteau. La pierre d'argile blanche.
Ouais.
C'est ça, pour le mur.
Ok.
On vérifiera si ça fonctionne vraiment.
Et okay. puis on en reparle même. Je reviens, puis on se fait un petit récit.
Tu fais une intervention chez moi, hop, allez.
Ah mais oui, c'est clair, c'est, je te garantis, on va t'appeler, on te dira si ça a fonctionné ou pas, on t'aura au téléphone. Bruno, jusqu'à 13h, t'es notre invité sur Voltage, la radio parisienne. Tu as aussi sorti un livre, on va en parler tout à l'heure. Juste avant, voici Angèle avec le morceau Démon sur Voltage à Paris, partout en Ile-de-France. Et vendredi, c'est le week-end qui démarre ce soir. Merci d'avoir choisi Voltage.
Jusqu'ici tout va bien, on sent ça aller.
l'invité du 10-15.
Bon alors Bruno, il fallait quand même qu'on te pose une question qu'on a oublié de te poser tout à l'heure.
Oui, bon, c'est pas forcément la question la plus sexy, mais honnêtement, on a, je pense, été tous confrontés une fois dans sa vie à ce problème. Le fond de ma cuvette des toilettes, elle est pas blanche.
Il est jaune, marronâtre.
Il est marronâtre quand même. Tu vois, c'est alors vraiment, on est au bout de ce qu'on peut tolérer.
Eh bien, j'ai une astuce. Et c'est une vidéo que j'ai encore une fois faite sur TikTok et Instagram. Et je crois qu'en cumulé, on est à plus de 4,5 millions de vues.
Ah, je me sens moins seule.
Exactement. C'est un sujet qui unit énormément de personnes. Et donc pour ça, il y a beaucoup de gens qui disent l'eau de Javel. Et l'eau de Javel, c'est quand même un produit qui est vraiment pas bon pour nous, pour l'environnement. Et puis l'eau de Javel va simplement blanchir la saleté, alors qu'on veut détruire le calcaire qui est au fond de la cuvette et qui devient marron. Et avec ça, donc c'est l'acide citrique.
L'acide citrique,
alors ça peut faire peur dès qu'on dit acide, mais c'est un des composants principaux dans le citron par exemple.
D'accord.
Et donc, je sais pas, 4-5 cuillères à soupe d'acide citrique dilué dans de l'eau très très chaude, et puis on verse dans les toilettes et on laisse agir une nuit, idéalement une nuit.
Okay.
Et on y retourne si ça n'a pas tout détruit, mais vous allez être surpris vraiment.
Et on frotte pas avec
et
une
après
brosse.
On frotte à la fin, mais c'est l'acidité de ce produit qui va grignoter le calcaire.
Et ça
après,
peut pas détruire le toilette.
Non, absolument pas. Et c'est ok pour les fosses septiques aussi, il y a beaucoup de gens qui en ont des fosses septiques.
Okay.
Mais le résultat est dingue, promis, c'est vraiment dingue.
Mais c'est quoi le dosage? Tu mets dans un litre, tu mets à peu près
5 cuillères à soupe, ouais, dans un litre d'eau frémissante. J'aime bien le côté frémissant. pas bouillant évidemment, mais frémissant. Et la température de l'eau va contrebalancer avec le reste de l'eau qu'il y aura dans la cuvette.
D'accord.
Donc il faut pas mettre de l'eau brûlante sur le fond de la cuvette, mais essayez encore une fois, on fera un bilan.
On teste.
Mais grave.
Et bah tu vois justement l'acide citrique, on s'y attendait pas. C'est quoi genre justement le produit le plus insolite auquel on pense pas et pourtant qui pourrait vraiment servir dans la maison?
Eh bien c'est la vodka. Alors ça c'est une astuce.
Ah ouais.
Exactement.
Bah,
l'abus d'alcool est dangereux pour la santé. Eh bien je vous garantis que ça fonctionne merveilleusement bien pour neutraliser les odeurs, que ce soit de tabac et de graillon. C'est une astuce que j'ai pratiquée quand je travaillais dans le monde de l'opéra et qu'on n'avait pas le temps de nettoyer les costumes de scène entre deux représentations.
Okay.
Les personnes qui travaillaient au service costume vaporisaient de vodka les vêtements et en séchant, la vodka neutralise vraiment toutes ces odeurs.
Mais ça sent pas l'alcool.
Et ça ne sent absolument pas l'alcool, évidemment, sinon l'astuce elle aurait pas beaucoup d'intérêt, quoi, sinon on passerait pour le pochetron du coin. Et je vous garantis pour les odeurs de, je sais pas moi, de friture, de graillon, sur des manteaux, même des coussins, des canapés, des fauteuils, des voilages, des rideaux, mais ça marche du feu de Dieu.
Et ça fait pas de tâche.
Aucune tâche, puisqu'on le vaporise de toute façon avec un. Non, okay. Aucune tâche et aucune odeur. Et pour de vrai ça marche, encore une fois, j'ai hâte d'avoir votre tour. Non mais c'est vrai, pour de vrai.
Je te jure que je vais essayer ça parce que oui, ça arrive très souvent. Il y a des odeurs de club, de
club.
Tu fais la raclette.
En plus, là, tu t'en fous d'acheter une vodka chère. Tu achètes la
moins chère. La moins chère est idéale. On met dans un vaporisateur. Et moi, j'ai toujours un vaporisateur de vodka chez moi. Non, mais j'adore ça, quoi.
J'aurais jamais pensé.
Et pour de vrai. En fin de journée, si t'es un peu fatigué, hop. Excusez-moi. Bon. C'est vendredi.
Oh ben oui.
Bruno, il y a tous ces conseils. On les retrouve en vidéo aussi sur ton compte TikTok, sur ton compte Instagram. Tu fais plein de vidéos pour vraiment tous les petits problèmes du quotidien. Et puis t'as aussi sorti un livre, c'était en 2021 si je dis pas de bêtises.
Exactement, chez Marabout.
Ouais.
Et avec un petit jeu de mots sympathique, ménage et vous. Donc voilà, c'est 160 pages dans lesquelles je mets des programmes, ce que je fais chaque jour, chaque semaine, chaque mois, pour pas me laisser déborder à la maison, un index des tâches évidemment, la liste des produits que j'utilise, du matériel, et en espérant que voilà. Que tout ça puisse rendre un peu heureux. Moi, c'est ma signature sur les réseaux.
En tout cas, j'avais jamais vu quelqu'un d'aussi passionné par le ménage. C'est beau à voir.
Bah, c'est sincère. C'est cool. En tout cas, c'est très sincère.
J'ai une dernière question à te poser, Bruno.
Aïe, 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 dis-moi.
Est-ce que chez toi, c'est toujours clean? Ou est-ce que parfois, tu n'appliques pas tes conseils et c'est un peu le bordel?
Alors, j'ai l'avantage, je dois créer des vidéos. Donc, quand ça devient sale, je peux pas être dans un environnement 100% propre tout le temps.
Ouais.
Et au-delà de ça, sans rigoler, j'ai vraiment cette phrase que d'ailleurs j'ai écrit dans le livre, c'est salir, c'est vivre.
Oui.
Je trouve que à partir du moment où on n'ose plus vivre parce qu'on a peur de salir, là il y a un problème. Mais quand on a les bons produits à la maison et les bonnes méthodes, les bons gestes à adopter, le bon matériel, eh bien on est
content de salir.
Mais on est hyper content de salir parce qu'on sait comment régler tous ces problèmes et ça devient plus des problèmes. Mais ça, j'en suis vraiment convaincu. C'est ce que j'essaie de faire sur les réseaux. C'est de dire qu'on est tous confrontés à la saleté, mais qu'on peut y remédier de façon simple, efficace et encore une fois avec des produits écologiques. Ça, c'est important quand même.
pour la planète, ouais.
Bah sur... ouais, et pour nous. Pour nous, en tant qu'utilisateurs, quoi, de respirer des choses moins nocives, de manipuler des choses moins nocives.
D'ailleurs, justement, tous les produits dont on a parlé, on va faire un petit reels sur Instagram. On va récap un peu tout ça, la pierre d'argile, l'alcool ménager. On avait parlé de quoi d'autre aussi?
Le savon de Marseille.
La vodka.
Oui, il y a plein de
et l'acide citrique pour les toilettes.
Exactement. Non, il y a plein de choses. Enfin, c'est passionnant. En vrai, c'est passionnant et on a vraiment la capacité de faire les choses différemment, enfin, vraiment, et d'avoir un impact sur notre santé, sur la planète et sur notre portefeuille, vraiment.
Merci beaucoup Bruno d'être venu nous voir sur Voltage. On est hyper content de t'avoir reçu. J'ai appris plein de choses toi aussi, Maud. J'espère que vous aussi vous avez appris plein de choses là, vous qui nous écoutez à la radio. On te retrouve sur les réseaux sociaux, sur TikTok, sur Instagram, c'est Bégin, donc B-G-I-N.
Point clean.
Tu fais plein de vidéos, c'est trop cool. Et puis je te remercie beaucoup Bruno d'être venu ici sur Voltage.
Merci à vous, à bientôt.
À très vite. Salut Bruno, voici Ed Sheeran.
Je suis une intelligence artificielle et je suis toujours avec vous chaque nuit sur Voltage pour écouter votre musique préférée.
Baby, sous le charme, je suis tombé sur ton corps, mes larmes s'embellissent, mais ton âme m'a trompé. Quand tes lèvres m'ont mis en délire, je vois ton visage rien qu'à moitié. Le vrai se cache comme par pitié. Attends de me tuer comme ça, je voudrais seulement être à côté de toi. Tu sais que ça fait mal de te laisser, toi est-ce que ça te plaît? Attends de me tuer comme ça, je voudrais seulement t'avoir tout près de moi. Tu sais que les mois effacent la peine, bien fait comme ceux qui s'aiment. Baby, ton âme, je l'ai baissé. On s'essouffle à vouloir ralentir. On se blâme une fois trompé. On se manque sans jamais se le dire. Mais dans ton regard, y'a de la pitié. Pourquoi tu pars, tu me laisses à moitié. Attends de me tuer comme ça, je voudrais seulement être à côté de toi. Tu sais que ça fait mal de te laisser, toi est-ce que ça te plaît? Attends de me tuer comme ça, je voudrais seulement t'avoir tout près de moi. Tu sais que les mois effacent la peine, et on fait comme ceux qui s'aiment. Ça fait mal, ça nous plaît, ça me fatigue de t'aimer, mais quand même, je le fais.
Bienvenue sur Voltage.